Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, déplacé du 6 au 17 juillet, le Festival de Cannes est ouvert. Et cette année, nous ne pourrons pas réaliser d'émissions là-bas. Mais une partie de l'équipe s'installera quand même dans les salles et tentera de grappiller quelques coupes de champagne la nuit tombée. Alors nous parlerons peu de Cannes, si ce n'est au travers du film et du réalisateur qui ont fait l'ouverture, soit Léo Scarrax pour Annette. L'occasion de faire un blind test avec sa filmographie de 5 films, le minimum requis pour le blind test. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous, ce ne sont pas des films en compétition à Cannes, pas du tout. Toi, c'est un film québécois, Manu.
Oui. Cuisipane.
Et puis toi, Guillaume, c'est un film qui nous emmène vers l'horreur.
C'est ça, l'horreur estivale, c'est La Chapelle du Diable de Evan Spiliotopoulos.
Quant à Marine, eh bien, elle nous parlera d'un film bulgare, La Saveur des Coins. Voilà un sommaire varié pour la dernière émission de la saison que l'on va débuter donc avec Cuisipane, adaptation du roman de Naomi Fontaine. Cuisipane suit deux amis nus, inséparables, qui n'ont plus la même vision de la vie à l'adolescence. Et c'est toi qui nous en parles, Manu.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Ici, on dit Nui Chuan. Ça veut dire mon ami. Mais moi, je t'appelle Neshim, comme une sœur.
Hasard du calendrier, la sortie en VOD en début d'année du documentaire « Je m'appelle humain » par Kim Obomsawin. Portrait émouvant de la poétesse Inyu, Joséphine Bacon, petit bout de femme menant un combat contre l'oubli d'une langue, d'un peuple et de ses traditions, fait écho au film qui nous concerne. Alors l'une des héroïnes de Cuisipane, Mikuan, pourrait être d'une certaine manière l'héritière de Joséphine Bacon au travers d'une œuvre de fiction librement adaptée d'un roman de Naomi Fontaine. Les premières images à Nocturne nous font découvrir Mikuan et Shanice, enfants, en train de pêcher au bord de la mer puis de chanter. Malgré la nuit, il s'agit d'une entrée solaire et enchanteresse, traversée par les rires et la chaleur humaine. Alors le timbre caressant de Mikuan en voix off scande le film de phrases poétiques que n'aurait pas renié l'écrivaine de « Je m'appelle humain ». Alors, dans une réserve de la communauté Innu, située au nord du Québec, qui ressemble à une banlieue prolétaire, deux amis inséparables se jurent de rester ensemble pour toujours. Mais arrivés à la fin de l'adolescence, vers 17 ans, leur parcours semble prendre des routes divergentes. Mikuan tombe amoureuse d'un blanc et rêve de quitter la réserve pour poursuivre des études littéraires, tandis que Shanice, déjà maman, tente de fonder une famille, vivotant avec un petit délinquant. Alors Myriam Verholt, la réalisatrice issue du documentaire, signe un premier long métrage sensible et sincère, dont l'une des plus grandes qualités reste l'authenticité du regard qu'elle porte sur les Innu. Rien d'étonnant en fin de compte, elle a effectué un travail de recherche pour l'écriture du scénario pendant 5 ans avant le début du tournage en 2017. Un long processus qui se ressent à l'écran. Myriam Véro parvient à faire exister des personnages absents du roman en articulant assez brillamment un récit ancré dans un environnement bien précis et peut représenter à l'écran et l'universalisme d'une histoire qui pourrait se dérouler n'importe où. Alors pour cela, elle a engagé des comédiens fabuleux qu'elle dirige parfaitement. Sharon Fontaine Ish Patao et Yamis Grégoire sont si convaincantes dans leur rôle respectif de Mikuan et Shanice qu'elles donnent l'impression de ne pas être des comédiennes professionnelles. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Alors contrairement à ce que j'ai lu un peu partout dans les journaux, qui en parlent comme des comédiennes non professionnelles alors qu'elles sont comédiennes, même si elles ne sont pas si éloignées de leurs personnages au quotidien. Ces invisibles un peu de la société québécoise. Alors grâce à la qualité de l'interprétation, jusqu'au moindre figurant, un sens de la topographie captant avec une grande force évocatrice la chaleur et la désolation des lieux, et enfin cette manière de saisir les émotions en creux avec les simples moyens visuels du cinéma, la réalisatrice réussit dans sa première heure un film absolument remarquable, portrait juste d'une communauté déracinée, doublée d'une parabole politique nuancée sur un peuple parqué dans des réserves victimes d'un génocide de la part d'occidentaux qui portent en eux une culpabilité collective. Alors cette culpabilité est d'ailleurs très bien décrite à travers le personnage de Francis, le petit ami de Mikuan. Il n'a rien à se reprocher, mais paraît constamment mal à l'aise, décalé, peu intégré par la famille de Mikuan, qui ne le rejette pas vraiment, mais le regarde comme un intrus. Il représente malgré lui une menace, l'étranger, symbole des conditions dans lesquelles les Innus subsistent aujourd'hui. Myriam Vero saisit très bien la peur de l'autre, la méfiance d'un peuple envers un autre, sans jamais verser dans le manichéisme ou l'angélisme.
On dirait que t'as plus de fierté. Francis, là, il me connaît mieux que toutes vos autres. Si tout le monde là, fait comme toi, on serait plus là.
Alors hélas, à la moitié du métrage, comme par peur de lasser le spectateur, le drame survint comme dans n'importe quel film américain conventionnel. Les coutures du scénario deviennent alors très voyantes. Là où Vero semblait accomplir un sans faute, elle cède à des facilités et sombre parfois dans le psychodrame lourdement explicatif. Les rapports entre les personnages se retrouvent alors pris dans les filets d'un scénario qui révèle ses artifices, comme si la réalisatrice avait eu peur du vide, de la simplicité édifiante de son histoire qui ne demandait pas autant de rebondissements. Alors cette baisse de régime, hein, en voulant d'ailleurs une hausse de régime, paradoxalement, n'impacte pas la qualité de Kwesi Pan, qui retrouve par ailleurs dans ses dernières images la beauté élégiaque du début, grâce au texte magnifique de la voix off et l'émotion qui surgit en offrant à Shanice une réhabilitation méritée et inattendue. Entre le teen movie sur la fin de l'adolescence, la fable politique et le drame social, Kwesi Pan prouve une nouvelle fois de la bonne santé du cinéma québécois, dominé par une poignée de réalisatrices, c'est très souvent des réalisatrices ces dernières années, très talentueuses dont on attend impatiemment des nouvelles à chaque film distribué en France.
Donc film québécois, sous-titré peut-être ?
Oui.
Kwesi Pan de Myriam Vero est en salle depuis le 7 juillet. La transmission et les liens entre les vivants et les morts questionnés dans La saveur des coins de Kristina Grozeva et Petar Valchanov. C'est un film bulgare dont nous parle Marine.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Pavel, un photographe d'une quarantaine d'années, s'en va à l'enterrement de sa mère. Son père, Vasil, est inconsolable. Mais lorsqu'un membre de la famille affirme avoir reçu un appel téléphonique de la défunte sur son téléphone portable, Vasil décide de tout tenter pour reprendre contact avec sa femme décédée. Obnubilé par cette idée, il se met en tête d'aller consulter un médium dont la réputation ambiguë fait craindre le pire à son fils. Pavel se retrouve malgré lui lancé à la poursuite de son père, tout en dissimulant la vérité à sa femme, enceinte et fragile, qui, elle, n'a qu'une seule idée en tête, manger de la confiture de coin. La saveur des coins, initialement intitulée The Father, raconte le cheminement relationnel entre un père et son fils face à ce deuil qui va faire ressurgir les non-dits, les frustrations et les rivalités pour finalement créer une inversion des rapports amenant Pavel lui-même à prendre soin de son géniteur. En creux, c'est la situation sociale et politique de la Bulgarie qui se devine, un pays où le pouvoir est corrompu, qui pousse son peuple à se réfugier dans deux extrêmes, la haine de l'autre ou la foi religieuse, ou les deux en même temps. Ajoutez à cela une méfiance féroce envers les organismes appartenant à l'État et vous comprendrez qu'à l'instar de Vasil, eh bien les gens préfèrent aller voir des guérisseurs plutôt que de faire confiance aux médecins. Kristina Grozeva, qui réalise le film avec Petar Valchanov, explique que le film se base d'ailleurs sur une histoire qui leur est réellement arrivée. Par ailleurs, toute leur filmographie commune, constituée de films à petit budget qui peuvent s'apparenter à des fables, s'appuie sur des histoires vécues ou lues dans des journaux et ont pour point commun une certaine absurdité que les cinéastes lient à la vie post-communiste en Bulgarie. Ici, l'absurde réside dans la quête sans fin du père pour reprendre contact avec son épouse défunte, mais c'est finalement un semblant de relation filiale qu'il va retrouver en cherchant à fuir son fils, voire en le combattant. Le film parvient à imaginer une sorte de road movie qui se décline ainsi selon les humeurs de ses personnages allant et venant entre la comédie et le drame, car tout comme le fruit qui donne son titre au film, le coin, qui est à la base un fruit peu goûteux hein, et qui demande beaucoup de préparation pour devenir savoureux, eh bien les relations humaines ou familiales exigent du travail pour perdre leur amertume et devenir ainsi plus douces.
La saveur des coins est dans les salles depuis le 7 juillet. Tout comme Annette de Léos Carax, qui fait partie des 24 films en compétition au Festival de Cannes et qui en a fait l'ouverture, on en parle.
This is Cinérama.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose.
It's a little more puzzling.
One, two, three, four.
Au départ, il y a une musique qui est le scénario des Sparks, le groupe de pop californien. Annette est une comédie musicale, assurément. Une tragédie également. La mort, l'illusion, l'amour, le questionnement, ils sont incessants. C'est avec habileté et joyeusement qu'on entre dans le film avec Léo Scarrax en ingénieur du son dans un studio qui prie les Sparks d'y aller. Un pré-générique alléchant, ultra musical et rythmé qui rassemble tous les participants au film, autant ceux qui sont devant l'écran que ceux qui y ont participé. Eh bien, tout cela nous introduit dans un univers bien plus sombre. C'est l'histoire tragique entre Henry, un stand-upper, Adam Driver, et Anne, une chanteuse d'Éric Marion Cotillard. L'un fait mourir son public, l'autre les sauve. Lui est plutôt habitué à multiplier les relations, brûler la vie par les deux bouts, rouler à moto seul dans la nuit. Mais voilà, ils s'aiment et de par leur statut, leur histoire est scrutée par les médias people. L'arrivée de leur fille, Annette, va tout bouleverser. Après un acte irrémédiable, Anne a-t-elle été poussée du bateau par son mari ? Eh bien, l'enfant va acquérir des dons insoupçonnés pour le chant. Annette est comme l'instrument de la vengeance de la mère. C'est aussi une marionnette. Alors, trouvaille de mise en scène, un peu retors au premier abord. Hein. C'est vraiment une marionnette et elle le restera jusqu'à l'avant-dernière séquence du film. Et ça tombe plutôt bien, hein, car le père qui a perdu son talent eh bien, en fait une star internationale. Avec le pianiste de sa défunte femme, amant désespéré par sa disparition, eh bien, ils remplissent les stades avec l'enfant phénomène. Alors, ce n'est rien de dire que le film est encore tanné du romantisme noir de Léo Scarrax, qui parvient en virtuose de l'image et du récit qu'il est à nous emmener dans une histoire dont les contours sont assez nets. Une sorte de descente aux enfers dont sera témoin un enfant, alors qu'il ne va pas vouloir rester une marionnette. Conte moral sur le spectacle, sur la vanité, avec des personnages radicaux. À Marion Cotillard, la pureté. Adam Driver, l'attirance pour l'abîme noir. Il y a peu de dialogue, tout est chant ou quasiment, même l'interrogatoire de police. Et puis, bon, on peut dire que Adam Driver et Marion Cotillard s'en tirent très très bien au niveau de l'interprétation et puis du chant, car ils chantent toutes les chansons et sur le plateau. Aussi expérimental que Holly Motors, son précédent film qui a déjà 9 ans, Annette est sans doute plus accessible. Carax relève le défi d'une comédie musicale qui est, bon, un anti-La La Land. Mais ce qui est certain, c'est qu'Annette est un objet cinématographique qui fourmille de trouvailles dans la mise en scène, des plus visibles aux moins évidentes, sombres mais beaux à la fois, donc on dirait sublime pour ce film qui mérite qu'on s'y attarde. Annette, qui vient de faire l'ouverture du Festival de Cannes, est dans les salles depuis le 6 juillet.
This is Cinérama.
Ce nouveau film de Léo Scarrax nous donne l'occasion de jouer un blind test avec sa filmographie.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
Léo Scarrax, c'est près de 40 ans de carrière pour seulement 6 long métrage, dont le dernier, Annette, donc, a fait l'ouverture du Festival de Cannes. Donc, avec ce blind test, eh bien, il s'agit de faire le tour complet de sa filmographie étriquée, mais si riche et singulière. Donc, vous l'avez compris, je ne vais pas mettre d'extrait d'Annette, donc ce sera 5 extraits donc, des films qui ont été commercialisés en salle. Et il faut juste les remettre un peu dans l'ordre. Voici le premier extrait donc, de cette filmographie de Léo Scarrax.
Elle a tout pris, toutes ses affaires. Elle voulait même emporter les lettres que je lui avais écrites. Moi, je disais non, elles sont à moi. Elles sont de moi, elles sont à moi. Finalement, je l'ai laissé faire. De toute façon, ce qu'elle ne sait pas, c'est que moi, j'ai toutes les photocopies.
Trouvé.
Boy Meets Girl.
Oui. 1984, c'est par là que tout a commencé. D'abord, Denis Lavant, un acteur emblématique de Léo Scarrax, qui interprète Alex espionnant les amoureux la nuit. Un soir de détresse, eh bien, il rencontre une femme, Mireille Perrier, qui lui ressemble, mais leur coup de foudre s'achève tragiquement. Il y a toujours du tragique, quand même, chez Carax. Il a reçu le prix de la jeunesse au Festival de Cannes 1984. Deuxième extrait de ce blind test consacré à Léo Scarrax.
Qu'est-ce que vous me voulez ?
Rien. J'aime votre travail, vous le savez. Mais certains d'entre nous...
Mais de qui parlez-vous, enfin, merde !
Laissez-moi poser les questions. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer, Oscar ?
Je continue comme j'ai commencé. Pour la beauté du geste.
La beauté, on dit qu'elle est dans l'œil. Dans l'œil de celui qui regarde.
Alors si personne ne regarde plus.
Encore un beau dialogue. Trouvé ?
C'est Holy Motors.
Oui, film sorti en 2012 en compétition à Cannes, de l'aube à la nuit, quelques heures dans l'existence de Monsieur Oscar, un être qui voyage de vie en vie, mené par une grande limousine. Alors tour à tour, il est grand patron, meurtrier, mendiante, créature monstrueuse, père de famille. Et à chaque rendez-vous, il y en aura 8. Monsieur Oscar semble jouer des rôles, mais sans qu'on aperçoive les caméras. C'est avec Denis Lavant, Edith Scob, Eva Mendes, Michel Piccoli dans cet extrait, et même Kylie Minogue, 131 000 entrées en France. Et puis voilà une déclaration de Léos Carax. Si Denis Lavant avait refusé le film, j'aurais proposé le rôle à Lon Chaney ou à Charlie Chaplin ou à Peter Lorre ou Michel Simon.
Voilà. Alors c'est pas étonnant parce qu'ils ont fait ensemble un court-métrage. Je parlais des 5 films, des 5 longs-métrages en dehors d'Annette, mais il y a le court-métrage Merde
oui.
Dans Tokyo aussi.
Oui.
Où il joue Denis Lavant, joue une espèce de Godzilla, mais version SDF et miniature.
Et personnage qui est repris dans Holy Motor. Prix de la jeunesse encore une fois au Festival de Cannes 2012 et puis meilleur film de l'année pour les Cahiers du cinéma. 9 nominations au César mais rien pour Holy Motor. Troisième extrait de ce blind test.
Tu fais attention avec la moto de ton père.
À elle ou à moi?
À vous deux. Il y plaît tellement. Vous êtes très beau aujourd'hui mon frère. C'est l'amour. Je vous aime.
Oui, mais si j'étais né difforme.
Non, arrête. Arrête. Non, arrête. Arrête. Oui, allô?
C'est trouvé, évidemment.
Paul X.
Oui, film de 1999 avec Guillaume Depardieu qu'on entend là et Catherine Deneuve et puis Katerina Golubeva. Adaptation actualisée du roman Pierre ou les ambiguïtés écrit par Herman Melville. Alors Pierre vit avec sa mère dans un château en Normandie à proximité des bords de la Seine. Alors ils sont beaux, riches, insouciants et ils s'aiment, on l'entend. Et une nuit, Marie annonce à Pierre qu'elle a fixé la date de son mariage avec Lucie. Alors Pierre part annoncer la bonne nouvelle à sa fiancée et en chemin, eh bien, au bord de la forêt apparaît une créature d'une beauté funèbre. Elle parle avec un fort accent des pays de l'Est. Et elle lui dit « Pierre, tu n'es pas le seul enfant, je suis ta sœur Isabelle ». Voilà. Sélection officielle du Festival de Cannes 99. 103 000 entrées en France. Ça n'a absolument pas marché ni à Cannes ni dans les salles françaises. Quatrième extrait de ce blind test concernant la filmographie de Léos Carax.
Lise, ma petite Lise, je pars. D'abord à la mer et puis on verra. Parce qu'il y a des moments où rien ne peut être changé sans quoi tout change. Des moments où rien ne peut être dénoué de nous sans quoi tout est dénoué. C'est comme un crime, je sais. Je suis le tueur. T'es mon arme encore tiède, abandonnée. Non, oubliée sur le lieu du crime. Et j'espère surtout que mes empreintes sur toi s'effaceront. Je sais que ta jeunesse préservera ton étonnement renouvelé de ne pas comprendre. Et c'est bien. Je prends le large. Lise, compte pas sur le temps qui passe. Bouge vite. Oublie-moi à toute vitesse. Couche avec des garçons et des hommes. Je me souviens du tout premier dessin que tu m'avais envoyé. Un des plus beaux. Avec cette phrase dessous. Quand une fille écarte les jambes, ce ne sont que des secrets qui s'envolent comme des papillons. Mais sois prudente. Pas d'amour sans préservatif.
Trouvé.
C'est mauvais sang ?
Oui, film de 1986 avec Michel Piccoli, Juliette Binoche et Denis Lavant qu'on entend. C'est le deuxième long métrage de Léos Carax, un des premiers films traitant métaphoriquement du sida. Sous l'accablante chaleur dégagée par la comète de Halley, la population parisienne est frappée par un virus tuant ceux qui font l'amour sans s'aimer. Ce virus est baptisé le STBO. Et dès lors, eh bien, deux bandes rivales vont se disputer le germe de ce virus qui devrait permettre de créer un vaccin et sauver la population. Et c'est Alex, Denis Lavant, qui devrait faire le coup. Il vient de quitter Lise, Julie Delpy, et puis il est charmé par Anna, Juliette Binoche, qui représente un amour impossible parce qu'elle est l'amante de Michel Piccoli. Le titre du film fait référence au poème d'Arthur Rimbaud, Mauvais sang, dans une saison en enfer. J'aurais pu prendre, mais je pense, une vingtaine de dialogues de ce film qui est un de mes films fétiches. Donc voilà, 504 000 entrées en France pour Mauvais sang, un film alors qui, généralement, ne laisse pas indifférent. Soit on aime, soit on déteste. Certains disent qu'il a mal vieilli, moi je ne trouve pas.
Non, des commentaires. Je l'ai revu.
Ah ben, je trouve ça tellement pas... T'as tellement pas vieilli que moi, chaque année, je le fais étudier à mes élèves, en fait. La séquence de pour les sons, les in, les out, comment est-ce qu'on fait des raccords, etc. C'est quelque chose de... C'est du pur langage cinématographique, en fait, ce film. Donc, ouais. Ça vieillit pas. Non, c'est l'image en premier, c'est l'émotion en avant. Et j'attends ça chez Annette, justement, vu que c'est une comédie musicale. Et le terme comédie musicale est mis au premier plan, là.
Eh bien, dernier extrait, maintenant, de ce blind test consacré à Léos Carax.
C'est étrange de te voir. T'es comme dans mes... Je pensais t'avoir oublié. Enfin... Mais depuis des semaines, toutes les nuits presque, j'ai des images de toi. C'est pour ça que je suis ici. Ce sont les rêves qui m'envoient. Les gens qui sont dans nos rêves la nuit, il faudrait toujours les appeler le matin au réveil. La vie serait plus simple. Allô, j'ai rêvé de toi. L'amour m'a réveillée.
Encore un bout de dialogue, et là c'est pareil, on pourrait en prendre des dizaines et des dizaines, ça a été trouvé.
Les Amants du Pont-Neuf.
Oui, film de 1991 avec Juliette Binoche qu'on entend là, et Denis Lavant, Denis Lavant qui interprète, eh bien quel prénom, Alex. Il vit à Paris sur le Pont-Neuf auprès de Hans, son vieux compagnon qui l'aide à trouver le sommeil, et leur vie tranquille est bien perturbée par l'arrivée de Michel, Juliette Binoche, et Michel perd la vue, et Alex découvre lui l'amour, et ensemble eh bien ils vivent, ils rient, boivent, dansent au rythme des orchestres parisiens, sous les lumières des commémorations du bicentenaire de la Révolution française. Alors c'est le début de la descente aux enfers pour Léos Carax. Il y a la blessure de Denis Lavant qui retarde le film. Le Pont-Neuf doit être reconstruit au milieu de nulle part à Lansargues, près de Montpellier. Bon, ça a été un échec de production, et puis un échec aussi un peu commercial. 867 000 entrées en France, ce qui est un peu mieux que les 504 000 de Mauvais Sang. Mais ça n'a pas remboursé en tout cas tout l'argent qui a été injecté là-dedans. Et puis on se souvient aussi de la phrase de Depardieu, hein. Carax a eu besoin de 6 ans pour tourner son film avec Binoche, qui à la fin n'était pas un film mais juste un morceau de merde. Ça, voilà, c'est une phrase de 2010 de Depardieu.
Et puis ça a impacté quand même sur la carrière après de Carax, parce que
mais il a mis du temps à revenir.
Entre 91 et aujourd'hui, il n'en est qu'à son troisième film. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Entre temps, il a fait des courts-métrages qu'il a enregistrés tout seul et balancés sur Internet, et puis il a fait le fameux Merde. Ainsi s'achève ce blind test autour donc de la filmographie de Léos Carax, qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes. Carax toujours avec un montage exclusif Cinérama autour de Mauvais Sang, film majeur du cinéma français.
De toute façon, il en avait fini avec moi.
Non, faut pas dire ça. Un jour, vous vous seriez retrouvés.
Un jour ou deux, peut-être.
Il le lui a dit. Il lui a dit, veux-tu? Elle n'a dit ni oui ni non, c'est une fille avec un garçon.
Vous ne savez pas aimer ma fille, et jamais, jamais vous ne saurez.
T'es pas amoureux. Un jour tu comprendras.
Un jour ou deux, peut-être. À l'œil, c'est à l'œil, suivez la main, suivez la main. Noir ça perd, rouge ça gagne. Je déplace et vous suivez, n'ayez pas peur de gagner. La carte rouge ici gagnée, la noire perd et perd. Qui l'a vu? 100 francs, qui l'a vu, qui la prend, qui la joue? 100 francs, monsieur. 100, 200.
Lise, ma petite Lise, je pars.
Lise t'aime et j'aime Lise. Je t'aimais. Mais aujourd'hui, la seule question qui me tracasse quand je te regarde, c'est si tu seras plus dégueulasse mort que vivant. Puis aussi. Non.
C'est une fille avec un garçon.
Alex, c'est Lise. Je sais que t'auras ce message à distance. Rappelle-moi vite, il t'est arrivé une catastrophe. Je t'ai trompée.
Tu comprends pas, Lise. T'as pas pu me tromper.
Alors c'est pas grave.
Non, tu comprends pas.
Tu m'en veux pas.
Tu comprends pas.
L'amour.
La première fois qu'une fille est tombée amoureuse de moi, je me suis dit, ça y est, les filles, les femmes sont amoureuses de moi. Puis cette fille et moi, on s'est quittés. Et j'ai pas compris quand d'autres filles que j'aimais m'ont pas aimé en retour.
Je t'aime.
Toi, c'est pire. La vie nous jette dans les bras l'un de l'autre, et toi, c'est idiot.
Non, je t'assure. J'aime les hommes grands. Pas grand. J'aime les hommes qui ont 20 ou 30 années d'avance sur moi. Ou de recul. J'aime un homme qui m'en rappelle un autre et tu m'en...
Arrête et me dis pas, tu peux pas comprendre. Je t'étrangle. Bon, je recommence. À l'œil, c'est à l'œil. Suivez la main. La carte rouge ici, c'est gagné, c'est payé. À noir, père et père. Qui l'a vu, qui la prend, qui la joue? 100 francs, monsieur. 100, 200.
C'était un montage exclusif Cinérama, témoignage de l'adoration que je voue à ce film de Léos Carax, ce film de 1986, donc Mauvais Sang. Est-ce le divin ou le malin qui fait des miracles dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre? Alors avec un titre pareil, La Chapelle du Diable, on en a quand même une petite idée. Et c'est toi, Guillaume, qui nous en parle.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Triste hasard du calendrier. Alors que nous apprenons la mort du très grand réalisateur Richard Donner, Dick pour les intimes, voilà que sort sur nos écrans un film qui hérite un peu de l'audace de l'intrigue de l'un de ses premiers films et succès retentissant, La Malédiction. Alors attention, hein, non pas que The Unholy ou La Chapelle du Diable chez nous soit du même niveau hein, que le classique de 1976, loin s'en faut, mais il a en commun la manière de détourner légèrement le postulat de base, le diable veut contrôler non pas un possédé, mais une foule de gens à des fins un peu plus audacieuses et à plus grande échelle.
Une guérison potentiellement divine. Une fille qui fait des miracles après avoir été visitée par la Vierge Marie.
La Chapelle du Diable est pour une fois un bon titre français. Si The Unholy hein, signifie l'impie, La Chapelle du Diable a pour mérite d'être non seulement clair, mais en plus d'expliciter le cœur de l'intrigue. Le prêtre Hagan, joué par le vieux routier William Sadler, le dit solennellement. Quand Dieu construit une église, le diable construit une chapelle à côté. Ce qui veut dire qu'il faut se méfier des miracles, car très souvent, ils sont soit des événements en trompe-l'œil qui vont permettre aux malins de se jouer des gens crédules, soit que derrière toute intervention divine, le mal corrupteur n'est jamais loin et qu'il n'attend qu'un moment d'inattention pour intervenir. C'est notre héros, Jerry, joué par Jeffrey Dean Morgan, qui va le comprendre à ses dépens. Journaliste spécialiste des histoires à sensation qui est actuellement dans le creux de la vague après avoir été mis au banc des rédactions des journaux respectables, il pense trouver le sujet en or lorsqu'il se retrouve dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre qui va être bouleversée par la multiplication de miracles. Une jeune fille muette va parler pour la première fois de sa vie et va annoncer qu'elle a régulièrement des visions de Marie. Devenue en quelque sorte son ambassadrice sur Terre, elle va accomplir l'impensable lorsqu'elle redonne l'usage de ses jambes à un enfant infirme et ainsi de suite. Le monde de cette petite ville va se retrouver chamboulé par la soudaine popularité de cette jeune fille et va assister à un intérêt sans précédent. Jerry, lui, est bien content. Étant le premier sur les lieux, il a pu tisser un lien avec la population locale avant que tout n'éclate et se retrouve comme interlocuteur privilégié en ce qui concerne les informations à faire passer à la presse et donc au monde. Mais derrière les miracles, il y a quelque chose de plus sombre. Déjà, il y a la suspicion des autorités religieuses, hein, incarnée par un Carrie Elles qui, après les sauts, se plaît hein, décidément dans les films horrifiques, qui va mener son enquête pour savoir si tout cela n'est pas un immense canular. Et puis, il y a aussi le fait que la fameuse Marie qui vient parler à la jeune fille, au miracle, ben, ne soit pas la Vierge Marie, comme la pauvre naïve l'imagine, mais une autre Marie, infiniment plus menaçante, car elle serait l'esprit d'une sorcière brûlée et tuée au XIXe siècle, qui reviendrait se venger, mais à plus grande échelle. Il faut dire qu'entre-temps, la petite ville est devenue un point de ralliement de tous les croyants et que l'influence de celle qui semble prêcher la bonne parole s'étend drastiquement.
Combien de personnes vont regarder ? Marie veut toucher le plus de personnes possible.
Peut-être des millions.
La Chapelle du Diable est la dernière production en date de Ghost House Pictures, la boîte de Sam Raimi. S'il n'est pas exemple de défaut, La Chapelle du Diable a suffisamment d'arguments pour séduire l'amateur du genre. Déjà, et bien tout simplement, l'intrigue. Comme j'ai dit plus tôt, hein, il est plaisant hein, de s'éloigner d'un simple récit de retour d'un esprit qui cherche à posséder une personne pour avoir une méchante hein, qui a un peu plus d'idées à la tête. Ce qui nous fait marcher bien plus sur les terres du fantastique que de l'horreur, hein, à proprement parler. Le film est d'ailleurs assez économe en hémoglobine, hein, excepté l'impressionnant visage de la fameuse Marie qui ne nous sera dévoilée qu'à la toute fin. Il faut dire que la pauvre a subi, lors de la scène pré-générique, l'exact même supplice que Barbara Steele dans l'introduction du Masque du Démon de Mario Bava. Même si cette scène est entièrement tournée d'un point de vue subjectif, l'amateur comprendra facilement ce qu'elle endure. Ce ne sera pas le seul clin d'œil, hein, car William Sadler, que l'on retrouve avec plaisir dans le rôle d'un homme de Dieu combattant le mal après l'excellent Le Cavalier du Diable, hein, le premier film adapté des contes de la crypte, va trouver un vieux manuscrit capital à l'intrigue dans le mur de son église, un peu comme dans Fog de John Carpenter. Jeffrey Dean Morgan joue un reporter spécialisé qui se balade dans le pays pour faire des papiers sur les phénomènes étranges, qui n'est pas loin du rôle de John Cusack dans Chambre 1408 d'après Stephen King. Et bien justement, on pense beaucoup à Stephen King dans cette volonté, au sein d'une petite bourgade, de mettre en garde contre le fanatisme religieux et d'accorder sa confiance en de faux prophètes prétendument séduisants et apaisants. C'est pourquoi il est dommage de voir le film sombrer en sa toute fin dans une bondieuserie malvenue, car en dehors des quelques pénibles jumpscares inhérents à toute production de genre des années 2000, bah le suspense du film se tenait bien, voire même très bien, et le film est tout à fait recommandable.
La Chapelle du Diable, c'est un film dans les salles depuis le 7 juillet.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie!
C'était la dernière émission de la saison. On se retrouve à la rentrée, en tout cas on l'espère. D'ici là, peut-être que vous aurez vu le dernier Kaamelott, le dernier film de Verhoeven, peut-être Black Widow, peut-être Fast and Furious. Faites-vous plaisir durant cet été. À la rentrée.